Et bienvenue dans le Paris Central Show. Aujourd'hui, on va parler du pack Vlahovic-Kolomouani qui prend de l'ampleur sur les réseaux. Il y a pas mal de rumeurs là-dessus, de personnages connus souvent. Donc, c'est une grande possibilité de ce qui va se passer pour la suite au Paris Saint-Germain. On est avec Tonton aujourd'hui. On va aborder le duo Vlahovic-Kolomouani. On va parler des blessures de Vlahovic, des stats. Est-ce que Kolo pourra se faire une place dans cette équipe parce qu'il y aura pas mal de joueurs. Donc déjà, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que sinon vous dites clairement à YouTube que la vidéo elle est nulle et ça nous aide pas les gars, donc mettez votre pouce bleu. On va commencer direct. Alors Tonton, nous on a parlé de cette rumeur et on est tout de suite tombé d'accord sur le fait que c'est une bonne possibilité pour le Paris Saint-Germain parce que Vlahovic, comme je t'ai dit, j'aime bien le joueur, j'aime beaucoup le joueur, mais j'ai un gros bémol, c'est sa pubalgie qui a toujours pas été soignée et qui du coup a des grands risques de rechute. Et si tu l'opères, il sera absent pendant à peu près 6 mois. Donc Vlahovic, moi j'ai des gros doutes sur le fait qu'il fasse une saison complète. Et ce que j'aime bien dans cette possibilité, c'est que Kolomouani, si tu le prends de base, ça va être pour jouer ailier soit à droite, soit peut-être à gauche sur un départ d'Mbappé. Mais si Vlahovic il est blessé, bah, tu as la possibilité de mettre Kolomouani en 9. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal sur le long terme. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Non, en soi, je pense que tu as bien résumé la situation. Le problème, c'est que moi, dans ma tête, hein, dans l'esprit de Luis Enrique, Randal Kolomouani, ce n'est pas le 9 qui va faire 60 matchs par saison. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, bien que Vlahovic corresponde plus à ce profil, le problème de sa pubalgie se pose parce qu'on peut le prendre de deux manières. Soit on prend le risque de le faire jouer et à un moment, la pubalgie va le regêner parce que tu l'avais bien dit quand on en parlait en off, Marco Verratti et sa pubalgie nous embêtaient un petit moment quand même. Soit tu te dis, écoute, la première partie de saison, c'est pas la plus intéressante, tu peux recruter Vlahovic et l'opérer tout de suite. Et si tu le fais, il sera prêt en janvier. Seulement, si tu le fais, est-ce que Randal, tu peux partir avec lui en étant 6 mois titulaire, en sachant que le risque de blessure peut exister pour lui aussi, et que si tu fais cette option dès le début, tu prives possiblement de tes deux neufs pour une bonne partie de la saison. Mais tu peux toujours aussi faire cohabiter les deux, qui sont plus complémentaires que opposables selon moi.
Ok, justement, on va parler du cas de Kolomouani au niveau des postes possibles. Parce que de tous les attaquants, voire joueurs qu'on cible devant, c'est le seul qui peut jouer aux 3 postes de devant. Donc, il peut te dépanner à plusieurs endroits. Et est-ce que tu penses qu'entre guillemets, il y a de la place pour Kolomouani, quoi ?
En soi, ouais, pour moi, il y a de la place. Je veux dire, tu l'as dit toi-même, c'est un profil qui est plutôt polyvalent, à l'inverse de Vlahovic. Vlahovic, on sait que c'est un 9, tu ne vas pas le mettre ailier droit, tu ne vas pas le mettre soutien d'attaquant, tu ne vas pas le mettre ailier gauche. Randal, lui, il peut plus ou moins remplir cette case de jouer sur les deux ailes, d'ailleurs, même s'il a un côté préférentiel droit. Et on se dit que, justement, dans la configuration actuelle du PSG, tu pourrais avoir que Mbappé reste ou non, dans les deux cas, tu as un 9 qui pourra combiner avec lui. Et si Mbappé part, en fait, la logique voudrait que Neymar joue sur en tant que meneur excentré à gauche. Tu pourras avoir Vlahovic en 9 et Randal en ailier droit avec un rôle plus de buteur que celui de Neymar. Et là, tu aurais une attaque très complémentaire. Parce qu'en plus, tu viens de recruter Asensio qui, du coup, serait le remplaçant de Randal. Tu as déjà Vlahovic en attaque qui serait en concurrence avec Randal. Et Neymar, sur le côté gauche, il a déjà la concurrence de Kang pour le moment avec les recrues actuelles.
Ok. Mais du coup, là, on partirait sur Vlahovic, possiblement Mbappé, Bernardo Silva et Neymar. Moi, je suis Kolomouani à son âge, 25 ans. Est-ce que je vais au Paris Saint-Germain avec ces possibles titulaires qui risquent de me barrer la route ou comme on a évoqué précédemment, sa polyvalence va faire qu'il va toujours avoir du temps de jeu?
Je pense que sa polyvalence va l'aider et je pense qu'on a bien fait de citer les joueurs que tu as cités parce que notamment Neymar en soi, on va dire meneur de jeu excentré, mais au fond, on sait qu'aujourd'hui, le meilleur rôle de Neymar, c'est en soutien de l'attaquant. On sait que Bernardo Silva, il n'est pas fixé ailier droit. C'est un mec, si Luis Enrique veut jouer dans un 4-3-3, il peut mettre Bernardo au milieu à côté de Verratti et de Ugarte, ce qui permet d'avoir un milieu ultra complémentaire, et mettre RKM justement sur l'aile droite avec Vlahovic en 9 et Neymar en ailier gauche. Et là, du coup, tu auras un milieu de terrain super technique qui permettrait à Luis Enrique de dominer ses rencontres, mais en plus, tu auras un côté droit qui serait beaucoup plus fort que les deux dernières années, parce que tu aurais et Bernardo au milieu, Hakimi latéral droit, Randal Kolomouani en ailier droit. Moi, je suis arrière gauche, je sais que je vais passer un sale quart d'heure si je joue face à cette triplette.
Et du coup, Asensio dans tout ça?
Asensio, il a été recruté pour faire la concurrence, pour être en rotation, pour être en sortie de banc, pour inquiéter le titulaire. Et moi, je trouve qu'au final, ça a du sens si tu prends Randal Kolomouani pour le mettre en concurrence avec Asensio. Moi, ce qui me concerne, si tu me dis qu'Asensio, il était là pour être le remplaçant et faire transpirer un peu le titulaire, c'est parfait. Seulement, si tu me dis qu'Asensio est titulaire du poste et qu'il va jouer les 60 matchs, je suis un peu moins serein, je te cache pas.
Ok. Je vais devancer les commentaires qu'on va avoir dans la vidéo et aborder un sujet qui est souvent qui vont nous dire où est-ce qu'il va jouer, par exemple. Parce qu'ils vont nous dire, ouais, maintenant il y a Vlahovic, il y aura Colomboigny, il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il y aura Asensio, il y aura Bernardo Silva, c'est pas possible. Mais est-ce qu'enfin le Paris Saint-Germain ne se dirigerait pas vers enfin une équipe où il y a de la vraie concurrence et où c'est pas une mauvaise chose en fait d'avoir tous ces joueurs? Si tu prends l'exemple de City, par exemple, Julian Alvarez, il a chauffé le bord. Et pourtant, le mec, à chaque fois qu'il est rentré, il a marqué. Il a été décisif quasiment à chacune de ses entrées. Mais tu sais que tu as des possibilités de derrière, qu'entre guillemets, sans manquer de respect à Ekitike, que tu passes pas de Mbappé à Ekitike. Genre, tu as un mec juste derrière qui est pas aussi loin que Ekitike.
Bah, je te rejoins dans le sens où, de toute manière, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ces dernières années avaient une très forte concurrence. Tu as cité Manchester City, c'est bien que tu aies cité Julian Alvarez, mais il y a aussi un mec qui s'appelle Riyad Mahrez qui a chauffé le banc contre le Bayern, qui a chauffé le banc contre le Real, alors que c'est un excellent joueur. On peut parler du Bayern Munich qui a une rotation phénoménale sur les ailes avec Sané, Mané, Gnabry, Coman. Ils sont quatre pour deux postes et c'est tous d'excellents joueurs. Donc aujourd'hui, les plus grands clubs, ils ne jouent pas avec 11 joueurs, ça n'existe pas. Il faut que tu aies un groupe de joueurs de 22-23 joueurs ou tes 11 titulaires, mais que les titulaires ils soient pas non plus au Club Med en se disant qu'ils vont jamais être concurrencés. C'est bien d'avoir des joueurs qui, justement, peuvent t'apporter quelque chose, parce que, comme tu l'as dit, le fait d'avoir tous ces joueurs, ben, si tu en as un qui n'est pas performant, ben, tu peux lui dire, ben, écoute, tu vas goûter du banc, il y a ce joueur, il est plus performant que toi, il joue au même poste que toi, et il va prendre ta place. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres clubs, et si tu veux que le Paris Saint-Germain soit au niveau des autres clubs, ben, il faudrait peut-être s'inspirer de cette méthode.
Ouais, pour ajouter à ce que tu viens de dire et évoquer le sujet d'après, qui sont toutes les possibilités tactiques qui s'offrent à Luis Enrique, avec autant de joueurs et des profils aussi différents, selon toi, quel système de jeu que Luis Enrique il aura à sa disposition cette saison?
Bah, en soi, c'est l'avantage d'avoir des joueurs que tu as recrutés qui sont polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes, c'est qu'au fond, t'es pas forcé d'être bloqué dans un seul schéma et une seule animation. On sait que Luis Enrique, son animation préférentielle, ça reste le 4-3-3 avec un numéro 6. Mais ça reste le préférentiel. On sait que Luis Enrique, bah, il est capable de s'adapter. À Barcelone, il a joué en 3-4-3 en losange d'ailleurs. On sait que bah, en Espagne, il a fait avec ce qu'il avait. Mais au Paris Saint-Germain, si tu recrutes de tels joueurs, l'avantage, c'est que tu peux jouer, comme j'ai dit, dans le 4-3-3 avec les joueurs que j'ai cités, mais tu peux également être modulable. Selon les moments de la saison, tu peux jouer en 3-5-2 avec Neymar en soutien de Colomboigny et Vlahovic avec les deux en attaque. Tu peux aussi partir sur un 4-4-2 où Neymar serait meneur de jeu excentré à gauche, Bernardo meneur de jeu excentré à droite avec Vlahovic et Colomboigny les deux dans l'axe en même temps. Tu peux partir sur le 4-3-3 que j'ai cité en tout premier. Tu peux même partir sur un 4-2-3-1 où tu mettrais Neymar en soutien d'attaquant, où tu mettrais Randal Colomboigny à gauche et Bernardo à droite et Vlahovic en 9. En fait, les solutions, si tu as tous ces joueurs, elles ne manquent pas. Et en fait, au final, c'est plutôt ça l'avantage d'avoir ces joueurs polyvalents, c'est que tu n'es pas fixé sur une tactique. Tu peux changer d'animation, même en cours de match, et surprendre ton adversaire.
Ok. Je ne suis pas très fan des stats. Je pense que j'ai regardé beaucoup de matchs de Francfort cette saison. Donc, je sais à peu près comment il joue, Randall. Là, on va quand même aborder les stats qu'on a vues pour, entre guillemets, mettre en avant ses points faibles et ses points forts. Déjà, points faibles sur les stats, on peut voir très clairement. Par exemple, si on le compare à Osimhen, par exemple, ou même d'autres attaquants. Son point faible, c'est clairement son jeu de tête et sa présence dans la surface. Parce que c'est un attaquant qui va beaucoup décrocher. Et du coup, on risque d'avoir le même problème qu'on a déjà au niveau de la présence dans la surface. Et son jeu de tête, il doit encore le travailler comme certains Kylian Mbappé, même si il n'y a pas photo, il est beaucoup meilleur, il est beaucoup mieux de la tête. Mais au niveau des stats, qu'est-ce que toi tu peux nous dire aussi sur Colomani?
Bah, en soi, les stats, pour moi, c'est un outil, c'est pas une finalité. Ça veut dire que si tu utilises les stats pour faire un constat final d'un joueur, c'est pas top. Par contre, si tu utilises les stats et que tu l'ajoutes au match que tu as regardé du joueur, c'est là que c'est le plus intéressant. Et comme tu l'as dit, Colomani, ben, il a ce profil au final, il ressemble plus à un ailier qui va marquer un maximum de buts qu'un numéro 9 qui va squatter la surface. Et c'est là que c'est intéressant de recruter Vlahovic avec Randal Colomboigny, parce que tu dis que Vlahovic pourra très bien jouer aussi le rôle de pivot pour Kolo Muani, voire Mbappé si Mbappé reste. Donc en soi, justement, le rôle de Mbappé et de Kolo Muani se ressemblent, mais ils ne seront pas dans les mêmes zones du terrain. Donc si tu arrives au milieu à animer ça avec un mec qui va jouer pour les deux autres sur les ailes, bah tu as aussi quelque chose de cohérent en fait.
Ok, et on va parler de ses points forts au niveau stats. C'est notamment quelque chose que vous avez vu lors de la finale de la Coupe du Monde, où il a gagné un nombre de duels incroyable, plus que tout le monde dans toute cette finale, alors qu'il a joué une mi-temps. Et c'est quelque chose qui se répète tout au long de la saison. Par exemple, si on le met en face à Osimhen encore, en duel gagné, il explose. Il y a encore un autre domaine où il est grave plus fort, c'est un dribble réussi. Je crois que c'est l'attaquant en Europe qui a le meilleur taux de dribble réussi. Je crois que même il y a un match que j'ai regardé de Francfort, il avait réussi, je crois, 17 ou 18 dribbles dans un match, et c'était le record. Après, je dis des chiffres, ça peut être à deux de moins, deux de plus, hein. Mais c'était un record, et du coup, c'est sa force, et c'est la force d'un ailier aussi, il pourra percuter. Donc, il y a des stats parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont très chauds à cette piste. Mais encore une fois, pas en numéro 9, mais en tant qu'ailier qui peut dépanner en numéro 9, moi je trouve que c'est la meilleure option qu'il y a sur le marché.
Bah, je trouve que le meilleur moyen de les comparer, en fait, c'est bête, hein, mais en Ligue des Champions, il y a eu un Naples-Francfort. Donc, tu peux t'appuyer aussi sur cette base-là pour voir le rôle des deux attaquants durant cette partie. Et au final, bah, Randall, il avait été exclu, il avait pris un carton rouge parce que bah, trop de pressing et trop de tacles. Et Osimhen, lui, à l'inverse, bah, pas flamboyant dans le jeu, mais par contre, il a marqué sur les deux matchs. Donc, ça te montre totalement bah, que, bah, final, Randall Kolo Muani, est-ce que finalement, c'est pas plus un ailier qu'un véritable numéro 9? Et est-ce que, en fait, justement, en fait, on répond à la question qui se pose au début de ce podcast, mais en fait, Randal Kolo Muani, il est plus complémentaire à Vlahovic qu'opposable, en fait, parce qu'ils n'auront pas du tout les mêmes domaines de prédilection, ils n'auront pas les mêmes avantages et ils n'auront pas les mêmes inconvénients. Donc pour moi, ils sont finalement plus complémentaires qu'opposables.
Ah ouais, là, je vois les stats en tant que passe décisive. Il est exceptionnellement haut pour un attaquant, Kolo Muani. C'est un mec, tu le mets ailier. Franchement, tu as le meilleur des deux mondes. Là, il va te marquer des buts, il va te faire des passes décisives. À part le 9,5 qu'on connaît, là, par exemple, les Benzema, les Harry Kane et tout ça qui te font un peu les deux. Les profils ailiers comme ça qui marquent autant de buts, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est une bonne option. Après, il reste la question financière. De ce qui a été dit et de ce qu'on a entendu, pour l'instant, on parlerait de une prêt avec option d'achat obligatoire pour Vlahovic, qui ferait qu'on ne le paierait pas cette année. Et Kolo Muani, on le prendrait directement au cash. Donc en fait, ça te laisse encore de la marge sur le mercato, notamment pour un certain Bernardo Silva, si on arrive toujours à le choper. Donc je pense que même si tu prends l'argent en compte, ça reste un bon deal. Vu que ça te bouffe pas ton mercato parce qu'il te reste encore le milieu à combler. Peut-être on a parlé de Gabri Vega qui coûte 40 millions, je crois. Et si tu en veux un autre, ça nous laisse de la marge pour acheter d'autres personnes. Surtout que je crois que dernière nouvelle, il faudrait qu'on achète un gardien. Donc, bah, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur la finalité des choses. On pense que c'est une bonne idée. L'avenir nous le dira déjà si ça se fait, s'il n'y a pas d'embrouille au final. Et si ça se fait, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous pourrez revenir sur cette vidéo s'ils viennent et soit nous tirer dessus parce qu'on avait dit que ça aurait été une bonne idée, soit nous dire vous aviez raison les gars, vous êtes des cracks. L'avenir nous le dira les gars, en tout cas n'oubliez pas que ici c'est Paris et ça c'était aujourd'hui avec Tonton et ciao.